France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Voici cette semaine une série consacrée aux nourritures, au pluriel, en somme, la philosophie met le couvert. Premier épisode ce matin, du besoin au plaisir, la nourriture comme fête de tous les sens. Manger pour vivre ou vivre pour manger ? Pour les amateurs de mets délicats, se nourrir semble une fin en soi. C'est une fête qui concerne tous les sens et pas seulement le goût. C'est une jouissance vaste et unique et qui n'est pas solitaire car quelque chose comme une communauté humaine se célèbre, ainsi qu'un lien fondamental avec la nature. Y a-t-il une éthique spontanément associée à ce plaisir majeur ? Ou y a-t-il plutôt un délicieux sentiment de transgression, tant le besoin vital de manger est transmué en délices divers et raffinés. Cela dit, pourquoi cela serait-il incompatible avec une certaine éthique ? Ce sont les questions que je poserai à mes invités de ce matin. Bonjour Corinne Pelluchon.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université Gustave Eiffel. Cette université, je le rappelle, a été créée en 2020 en fusionnant l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée et l'Institut de la recherche européenne sur la ville et les territoires. Vous écrivez, Corinne Pelluchon, sur de nombreux sujets. L'an dernier, vous avez fait paraître aux presses universitaires de France « Lettres et la mer » pour un existentialisme écologique. En 2015, vous avez publié au Seuil « Les nourritures ». Philosophie du corps politique. Bonjour Diana Cardenas.
Bonjour.
Dois-je prononcer le S à la fin ?
Oui.
Vous êtes médecin et docteur en philosophie depuis 2016. Vous avez fait une thèse sur la nutrition en médecine sous la direction de Corinne Pelluchon. Cette thèse a été publiée chez L'Harmattan. Vous travaillez aujourd'hui, Diana Cardenas, comme médecin au centre Gustave Roussy à Villejuif. Il s'agit d'une unité d'expertise et de diagnostic en nutrition dans un centre de lutte contre le cancer. Et bonjour Jean-Michel Wittmann.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en littérature française et spécialiste d'André Gide. Avec vous, nous évoquerons l'idée gidienne des nourritures terrestres, titre du livre de Gide, paru en 1897.
Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends, et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas ? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Je ne le souffle pas, parce qu'il ne faut pas le souffler, il faut l'attendre. Et on est là. Ah, ça y est. Alors, vous voyez, je commence déjà à avoir de la graisse plein la figure, c'est ça qui n'est pas joli. Alors, on est là. Là, après, je mets mon doigt. C'est chaud. Il me tarde de le déguster. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh, mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange, moi. Mmh. Oh, c'est bon. Mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Mmh. Oh, que c'est bon. Je vous assure, c'est absolument. Absolument. Et bien, pour ce qui est de minière, ce que vous minez, que par un mourir, pour être mourir tout d'un coup, que sera content.
Tout le monde sourit et salive ici en studio comme en régie à entendre ainsi Maïté manger un ortolan. C'était sur FR3 Aquitaine, comme on disait en 1987, dans son émission La cuisine des mousquetaires, émission qui à partir de 1991 a été diffusée sur la chaîne nationale FR3 avant France 3. Quelle sensualité, Corinne Pelluchon, est-elle redoublée, cette sensualité, par le fait d'échanger, de décrire, de partager ?
Bien, c'est-à-dire que se nourrir, ce n'est pas seulement combler un vide, comme si les besoins... Mais c'est aussi l'idée que l'activité même de se nourrir nourrit ma vie, lui donne un sens et une saveur ou pas. Et s'ajoute à cela le plaisir de partager. Alors, les nourritures, d'ailleurs, le mot nourriture au pluriel atteste ce débordement du sensible sur le concept. Le fait que les nourritures ne sont pas des objets qu'on voit devant soi, on les incorpore, mais qu'aussi elles sont plus riches dans leurs sensations que ce que le concept peut embrasser. Donc le plaisir atteste, disait Lévinas, cette essence, fait éclater cette essence élémentale du monde, cet excédent du monde sensible sur ce qu'on peut représenter. Le monde n'est pas seulement un ensemble d'outils d'ustensiles, c'est ça que veut dire les nourritures.
Alors ce qu'on entend, Diana Cárdenas, aussi dans cette scène avec Maïté, c'est que d'autres sens, évidemment, sont en jeu. Elle touche cet ortolan gras, elle le met sur sa joue. Le fait qu'elle salive, alors là, ça s'entend tout à fait. J'insiste quand même, est-ce que le fait d'en parler est presque une contrainte pour elle? Elle aimerait bien être toute seule et à le déguster sans avoir à dire quoi que ce soit. Ou bien au contraire, la parole est-elle une sublimation de la jouissance? Vous qui êtes spécialiste de la nutrition, ces enjeux ne doivent pas être trop loin de vous. Qu'en dites-vous?
Tout à fait. En fait, l'approche que nous avons aujourd'hui en nourriture nous questionne tout le temps, nous questionne en permanence. Et lorsqu'on est dans un domaine clinique ou dans un domaine de la maladie, ce questionnement se transforme. Ça veut dire que lorsqu'on est en bonne santé, on déguste.
On est peut-être comme Maïté, et ça va moins bien quand on est malade.
Quand on est malade, on est face à de nouveaux enjeux. Ce n'est pas uniquement les plaisirs et les goûts d'un aliment, des nourritures. Mais lorsqu'on est malade, il y a une transformation. C'est-à-dire que parfois, moi je m'occupe de malades du cancer, par exemple. Et lorsqu'on atteint un cancer et qu'on subit un traitement, on reçoit un traitement, il y a les goûts. Il y a toutes ces capacités de déguster l'aliment qui sont complètement transformées.
C'est important de retrouver la sorte de plaisir que fait partager la Maïté. Quand on est malade, je présume qu'il ne faut pas être trop ambitieux, l'appétit se tasse. Mais c'est important pour vous de rappeler aux médecins et aux malades qu'il y a quelque chose comme un désir gustatif et plus complet, qu'il faut quand même un peu rallumer.
Vous avez tout à fait raison. En fait, souvent, on a tendance à oublier. Dès lorsqu'on est dans un contexte clinique ou lorsqu'on est malade, et nous soignons, lorsqu'on va soigner ou on va nourrir une personne malade, on oublie justement ces contextes et ces notions de plaisir, de convivialité. En fait, l'alimentation, souvent, dans le contexte clinique ou à l'hôpital même, elle est réduite à un acte. Ça s'est réduit à donner des calories. Et on sait aujourd'hui très bien que l'alimentation, même dans un contexte clinique, ne doit pas se réduire à cela.
Est-ce que la parole la joue? La parole qui parle de l'aliment au malade avant et qui reçoit le commentaire du malade sur son appétit et son plaisir?
On doit l'écouter, on doit être sensible à ses besoins, mais parfois les malades n'ont pas faim. En cancer, par exemple, les malades...
Même souvent, non?
Souvent, très souvent, ils ont une anorexie qui est liée à la maladie et au traitement. Donc, il n'y a pas de faim, mais ce n'est pas parce que les patients souffrent d'anorexie qu'on ne doit pas répondre, justement, à ces besoins en termes d'aliments. Et c'est là où nous, spécialistes de nutrition, on agit avec la nutrition artificielle. Et là, la difficulté est à garder ces dimensions de goût et de plaisir lorsqu'on donne une alimentation artificielle.
Jean-Michel Wittmann, alors vous êtes spécialiste de Gide, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu de diffuser plusieurs extraits des Nourritures terrestres de 1897. Nous allons aussi resituer ce livre dans l'histoire de Gide. Il y a un autre livre avant, qu'est-ce qui lui arrive là? Mais juste, j'aimerais votre commentaire de la scène avec Maïté qui caresse le derrière de ce petit ortolan, qui se le met sur la joue, qui gémit presque, Maïté. Soyons clairs et simples, il y a à l'évidence dans la jouissance gustative quelque chose qui évoque la sexualité, le plaisir sexuel. Et pour Gide, est-ce central dans les nourritures?
Oui, bien sûr. Quand on écoute l'extrait de Maïté, moi, ce qui me frappe au premier abord, c'est que je n'imagine pas un instant que Gide ait pu se réjouir d'un ortolan, parce que je pense connaître assez bien l'écrivain, sa correspondance, son journal. Il lui arrive rarement, ou peut-être qu'un passage m'a échappé, de parler d'un bon repas au restaurant, contrairement à d'autres écrivains, de parler d'un plat. Donc la nourriture en tant que telle, en tant que plaisir, ne l'intéresse pas tant que ça. Ce qui peut sembler paradoxal pour quelqu'un qui écrit les nourritures terrestres, mais en même temps, à l'inverse, et on le voit dans les nourritures terrestres plusieurs fois, lorsqu'il évoque les nourritures, c'est précisément pour évoquer directement le plaisir de nommer, et il y a plus de plaisir dans la nomination,
dans la parole,
puisque ce qui est en jeu fondamentalement chez Gide, dans la célébration des nourritures, c'est une redécouverte de soi, c'est un nouveau rapport au monde. Et puis, et pour prolonger très directement ce que disait Diana Cardenas il y a un instant, il y a un lien que tout le monde ne soupçonne pas forcément, mais auquel j'ai immédiatement pensé. Il ne faut pas oublier que Gide, lorsqu'il écrit les nourritures terrestres, finalement s'ancre dans une expérience qui a été celle de la redécouverte du corps. Et cette redécouverte du corps a été liée au fait qu'il a été atteint de tuberculose. Et c'est la nourriture, la manière dont il en parle, plutôt dans un autre récit contemporain, l'immoraliste, c'est aussi une manière de redécouvrir son corps, de redécouvrir qu'on a un corps à travers l'expérience de la maladie, mais pour s'ouvrir au monde et jouir du monde après l'expérience de la maladie.
Et la nourriture au sens premier du terme n'est pas trop son affaire, ça restera un homme de peu d'appétit. Je vais me permettre de citer son autobiographie « Si le grain ne meurt » en 1926, où il raconte que petit, c'était l'enfer. Pour lui, les repas, je mangeais peu, je dormais peu. Ma tante Lucille était aux petits soins. Le matin, Adèle ou Victor venaient allumer le feu dans ma chambre. J'écoutais les bûches siffler. Je sentais mon engourdissement se résorber dans le bien-être qui régnait du haut en bas de la maison. Donc oui, il y a un certain bien-être sensoriel, mais manger, c'était l'enfer. Il souligne, je cite, « Ma mère suppliait, grondait, menaçait, et presque chaque repas s'achevait dans les larmes. » Et sa chère Séraphine lui préparait des petits plats spéciaux, mais ça ne servait à rien. Ça ne se déclenchera pas chez Gide, dans sa vie, le goût des bonnes choses qu'on met dans la bouche pour
on
vivre.
On est au cœur du paradoxe de quelqu'un comme André Gide, puisque c'est effectivement, mais vous l'avez un petit peu rappelé, c'est quand même quelqu'un qui est associé à l'idée d'une forme d'hédonisme. C'est quelqu'un qui profite de la vie, de la saveur de la vie. J'emploie déjà une métaphore qui nous ramène à la nourriture. Mais effectivement, l'expérience de la nourriture au sens de Maïté, qui va déguster un plat très concrètement et parler de la graisse qui coule de la volaille, est étrangère à Gide, mais parce que immédiatement, l'expérience va au-delà. Et d'ailleurs, lorsqu'il évoque dans Si le grain ne meurt, qui est quand même un texte littéraire, donc une réécriture de sa vie, une réécriture poétique de sa vie, le rapport à la nourriture qu'il indique est aussi et surtout une manière d'indiquer qu'il est différent des autres, c'est-à-dire qu'il est voué aux choses de l'esprit, c'est-à-dire à la littérature, et c'est l'origine de sa vocation. Autrement dit, il n'y a jamais de discours direct sur la nourriture, mais il y a davantage un positionnement en tant qu'écrivain et par rapport au monde et par rapport à son lecteur chez Gide.
Corinne Pelluchon, le sexe et la jouissance sexuelle qui elle-même engage beaucoup de sens, peut-être tous, peut-elle être ainsi exclusive comme chez Gide? Enfin, qu'est-ce que ça vous donne à penser d'une jouissance de la nourriture au sens premier du terme? Les nourritures terrestres ne portent pas sur le manger, elles portent sur le plaisir très intense, la fête des sens, mais qui concerne un plaisir sexuel démultiplié par une jouissance au monde, mais c'est pas gustatif au sens premier du terme.
Oui, il y a une distinction entre la nourriture et les nourritures. Les nourritures, qui peuvent inclure les aliments, célèbrent en fait notre vie dans le sensible. C'est les choses naturelles et culturelles, les relations, mais aussi le travail, les paysages dont nous vivons. Vivre, c'est toujours transitif, c'est toujours vivre de quelque chose. Et il y a ce débordement, cette indépendance dans la dépendance. Ça répond à nos besoins, mais il y a ce surplus qui fait la grâce de la vie. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est toujours lié à la sexualité. C'est, disons, une manière de nommer la vie dans le sensible, ce débordement du sens. Et je crois que ça, c'est important. Et il y a, bon, dans l'extrait de Maïté, il y a quand même ce frissonnement égoïste, pour parler comme Lévinas, puisqu'elle ne prend pas en compte tout ce qu'il a fallu pour amener cet animal qui a payé de sa vie pour être dégusté ainsi. Donc, comme s'il y avait une séparation entre le monde du sensible et la dimension éthique, voire économique, des nourritures, puisque tout ce dont nous vivons est aussi pointe aussi les êtres qu'il a fallu ou exploiter ou faire travailler pour amener ces nourritures. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il est très important de souligner la dimension de plaisir dans l'existence que l'existentialisme classique a eu tendance à gommer en disant que nous sommes jetés dans un monde très étranger qui nous fait peur, la mortalité, la négativité, la douleur. Donc voilà, la nausée. Alors que là, dire que d'ores et déjà la vie est aimée, comme dit Lévinas, insister sur cette dimension de plaisir à même les choses, qu'elles soient naturelles ou culturelles, dont nous vivons, et qui donnent une saveur ou pas à l'existence, parce qu'exister, c'est pas seulement survivre, c'est très important, et c'est justement quand les personnes sont privées de cet accès au plaisir qu'on est dans un monde de l'exploitation et que les êtres ont une vie diminuée. Et aussi, insister sur cette dimension de plaisir, ça voulait dire qu'il y a peut-être dans notre rapport aux choses, encore une fois, naturelles et culturelles, dans les choses dont nous baignons. Parler de nourriture, ça veut dire que les choses ne sont pas seulement des instruments, n'ont pas seulement une valeur instrumentale. Donc ça a des conséquences énormes quand on pense la nature, quand on pense même l'alimentation, qu'on ne devrait pas, d'ailleurs, les aliments échanger comme des marchandises sur un marché dérégulé. Donc penser les nourritures, et non les ressources, penser les nourritures dans cet excès, dans cette idée que le plaisir doit être possible, que la convivialité aussi doit être possible, c'est donc pointer aussi quelque chose de très exigeant dans le partage des nourritures. Puisque là, on célèbre le plaisir, mais moi, je sais, quand j'ai écrit Les nourritures en 2015, j'avais consacré pas mal de travail sur la faim, l'alimentation, et à l'époque, il faut voir que il y avait environ 865 millions de personnes souffrant de faim, 2 milliards de malnutrition, donc il y avait en quantité mais pas en qualité, hein, les nutriments nécessaires pour une santé, environ 2 milliards de personnes souffrant d'obésité, et enfin du coup ça méritait bien un livre, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport difficile à l'alimentation et aussi sans doute difficile à l'environnement ou aux choses dont nous vivons. Hein. Donc ça c'est parce que le rapport instrumental aux choses malheureusement domine dans notre société. Et donc au-delà du plaisir et de ce que ça peut avoir, qui nous renvoie à nous-mêmes, un rapport finalement très intime à nous-mêmes, puisque c'est vrai, et là on rejoint ce que vous dites, là, c'est le lien avec la sexualité, c'est que le goût exprime le vécu dans sa globalité, dans ce qu'il y a de plus intime, puisque c'est de l'extérieur des nourritures qu'on fait passer à l'intérieur. Donc c'est l'existence comme incorporation, réceptivité, sensibilité à fleur de peau.
Lien avec la sexualité qui pourtant peut être singulièrement rompu dans le cas de Gide, nous allons y revenir. Nous reviendrons aussi au gras, au gras qui est souvent évoqué et qui est au cœur de la jouissance de Maïté quand elle déguste cet ortolan, espèce, et là je viens aux histoires éthiques que vous évoquez, Corinne Peluchon, espèce en voie de disparition, interdite à la consommation. Mais puisque vous avez parlé d'égoïsme, je voudrais revenir à la sensation même qui est en jeu quand nous mangeons et à l'aspect de préhension. Nous prenons, nous dévorons, il y a une voracité, il y a notre salive, puis des sucs gastriques qui attaquent la chose. Il y a cet échange qui n'est pas sans une certaine brutalité. Précisément, c'est de cela que parle le magistrat Jean-Anthelme Bria-Savarin, qui a donné son nom bien plus tard à un fromage, je préciserai les choses, mais qui dans sa vie a eu beaucoup d'activités et a écrit en 1825 une physiologie du goût. Écoutez cet extrait.
L'homme est omnivore. Tout ce qui est mangeable est soumis à son vaste appétit. Ce qui entraîne, pour conséquence immédiate, des pouvoirs dégustateurs proportionnés à l'usage général qu'il doit en faire. Effectivement, l'appareil du goût est une rare perfection chez l'homme, et pour bien nous en convaincre, voyons-le manœuvrer. Dès qu'un corps esculent est introduit dans la bouche, il est confisqué gaz et suc sans retour. Les lèvres s'opposent à ce qu'il rétrograde, les dents s'en emparent et le broient, la salive l'imbibe, la langue le gâche et le retourne, un mouvement aspiratoire le pousse vers le gosier, la langue se soulève pour le faire glisser, l'odorat le flaire en passant, et il est précipité dans l'estomac pour y subir des transformations ultérieures sans que, dans toute cette opération, il se soit échappé une parcelle, une goutte ou un atome qui n'ait pas été soumis au pouvoir appréciateur. C'est aussi par suite de cette perfection que la gourmandise est l'apanage exclusif de l'homme.
Diana Cárdenas, vous êtes médecin spécialiste de la nutrition, notamment en ce qui concerne les malades cancéreux. Il faut beaucoup d'énergie, de muscles, de nerfs pour prendre la nourriture en bouche, pour mastiquer, pour saliver, même si ce n'est pas volontaire, il y a des activations nerveuses, et pour avaler, la déglutition est une chose très impressionnante en termes d'énergie, notamment musculaire. C'est important de rappeler tout cela.
C'est très important, et là j'adore ce passage qu'on vient d'écouter de Brian Savarin. Ça nous rappelle, il y a une espèce de sensualité dans ce que je viens d'écouter. Et moi, en tant médecin, je me mets face à cette sensibilité. Parfois on oublie, c'est un acte mécanique, de lorsqu'on est face à un aliment, on l'ingère et on l'avale. Mais dans le cadre d'un patient atteint d'un cancer, il y a l'effet de la maladie elle-même, la tumeur qui va libérer des substances qu'on appelle cytokines et autres produits inflammatoires. Ils vont agir au niveau du cerveau, vont induire des troubles du goût, des troubles de l'appétit, une anorexie. Et il y a une transformation qui est physiologique. Et là, nous, médecins spécialistes, on est formés à tout ça, à comprendre ces altérations, à comprendre les altérations du goût, qui sont assez fréquentes. À peu près 70% des patients atteints du cancer en traitement peuvent être atteints d'une altération du goût ou d'une anorexie. Et donc, on est préparé à ça, mais souvent, on oublie toutes ces sensualités et toute l'éthique qu'il y a derrière cet acte, qui est l'acte de manger, de déguster et la déglutition.
Est-ce que, Corinne Pelluchon, cet aspect, presque cette violence du manger, toute cette sphère de l'oralité qui nous aide à parler, mais qui nous aide aussi à dévorer. Et il y a de la dévoration, même dans les actes d'alimentation qui apparaissent les plus doux. Il y a quelque chose qui se passe en nous, qui prend. Ça ne plaide pas pour l'idée, me semble-t-il, d'une naturelle intersubjectivité dans l'alimentation, qui est un point que vous développez, d'un rapport au monde généreux, ouvert. Ça plaide plutôt pour l'intime dévorant, quelque chose de refermé sur soi. Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas une intimité dans le fait de manger et d'éprouver du plaisir qui fait qu'on aime aussi être seul? Il y a aussi un plaisir d'être seul dans cette jouissance.
Alors, votre remarque est très lévinassienne, hein, puisqu'il séparait justement le moment du plaisir, la jouissance, de la justice et de l'éthique, qui commence par la prise de conscience, enfin la rencontre du visage d'autrui qui seul m'interpelle. Mais ce que, en même temps, qu'il y ait ce fait de mordre dans l'élément, en insistant justement, en prenant du plaisir à ce qu'on appelait dans l'âge classique les qualités sensibles, l'odeur, la texture des aliments, etc. Eh bien, ça n'empêche pas de prendre aussi en compte tout ce qu'il a fallu pour produire les nourritures qui ne tombent pas toutes seules. Et le fait qu'il y a des convives invisibles, que la phénoménologie des nourritures fait surgir, en montrant justement à quel point les nourritures que l'on achète ou que l'on prépare, eh bien, vont favoriser tel type de production, vont remercier celles ou ceux qui l'ont cuisiné, parce que mange pas tout cru quand même, en tout cas pas tout, et vont aussi parfois, pour beaucoup d'entre nous, rappeler ce que cela coûte à des êtres dont la vie est pour eux aussi importante qu'elle l'est pour nous. Donc du coup, ce qui se mange aussi, l'alimentation, c'est un fait social total. Il est à la fois lié à cette humanisation, à ce plaisir, à cette dimension du plaisir et de la convivialité, sans laquelle manger, eh bien, c'est comme ingurgiter, c'est une prise alimentaire. Et c'est comme des carburants. Mais il y a également cette dimension d'être avec les choses, avec le monde, cette dimension éthique, économique et politique qu'on ne peut pas néanmoins oubliée, mais qui n'est pas évidente, bien sûr, puisque dans le moment de manger, il y a quelque chose de quasiment innocent, où on est chacun avec soi-même, et c'est très important d'insister sur de ce côté de mordre dans les nourritures à pleines dents. Mais c'est, je crois, moi j'entends cela comme cette dimension du plaisir et comme si le monde nous agréait. Moi, ce qui m'avait beaucoup, j'avais pris comme exemple dans les nourritures le nourrisson qui, quand il tète le sein de la mère ou boit le biberon, a l'impression, et vraiment tout dans cet acte, a l'impression que le monde est bien pour lui, lui convient. Cette dimension du plaisir, ça veut dire que le monde me convient. Alors, et c'est une dimension que nous avons oubliée, puisque la plupart du temps, on n'a pas l'impression que le monde nous convient. Nous sommes dans un monde difficile d'exploitation. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rappeler cette dimension du plaisir, qui est peut-être plus originaire que la déréliction. Mais, encore une fois, je crois que la phénoménologie invite à faire surgir ces dimensions-là, qui signifie que l'existence, le fait de manger, d'habiter quelque part, parce que vivre, c'est vivre d'eux, qu'on ne vit pas abstraitement, qu'on n'est pas seulement liberté, capacité de faire des choix, mais qu'on a besoin de choses matérielles, et donc, eh bien, vivre, c'est vivre d'eux, et c'est donc vivre avec, puisqu'on a toujours un impact sur les autres humains et autres qu'humains, parce qu'en raison de notre corporéité et de la matérialité de notre existence, du fait que nous avons besoin de plein de choses pour vivre. Et c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de matérialisme sublime. Mais là où vous avez raison, c'est que ça ne va pas de soi. Et ça ne va pas de soi parce que la plupart du temps, eh bien, nous prenons les choses et nous ne pensons pas le partage des nourritures, sauf entre amis où on ne pense pas à toutes ces dimensions-là.
Et il y a dans le plaisir de dévorer quelque chose qui évoque aussi de nombreux animaux qui se mettent dans un coin tout seuls pour,
c'est vrai,
pour manger. C'est la faim nous isole aussi lorsque c'est une vraie faim ou lorsque le plaisir est extrêmement intense. Et parfois, il l'est encore plus quand on a vraiment faim. Vous parliez du nourrisson. Il paraît que les études montrent à quel point la faim leur fait mal. Et la psychanalyse, Mélanie Klein singulièrement, nous a dit à quel point il y a aussi dans le nourrisson l'envie de détruire parfois ce qui est si bon et dont il dépend tellement. C'est un rapport complexe et qui n'est pas doux. Lévinas n'aurait-il pas, dans un certain nombre de textes que vous citez, un petit peu aplani justement ce problème? Il a des formules très douces. Hein. Je comprends en me nourrissant, je cite, que le monde que je constitue me nourrit et me baigne. Tout cela nous ouvrirait vers d'autres choses. Nous vivons de bonnes soupes, d'air, de lumière, de spectacle, de travail, d'idées, de sommeil. Et vous, Corinne Pelluchon, vous ajoutez de cinéma, de promenade, de villes et de campagnes. Tout ça est doux, vaste. Est-ce que ça n'efface pas un peu la voracité première?
Alors, pas vraiment, parce que je crois que quand Lévinas parle de cela, faut pas oublier qu'il en parle dans Totalité infinie, dans Intériorité existence, un chapitre avant, juste avant l'émergence du visage d'autrui, d'une tu ne tueras point, qui est aussi la prise en compte de l'ambivalence de mon rapport à autrui, qui est celui que je peux vouloir tuer et que je dois protéger. Donc, mais lui, il sépare radicalement le monde dans le sensible, qui n'est pas forcément doux, mais il voulait souligner cette vivance, cette dimension de plaisir attachée aux choses. Alors que dans d'autres textes, il insistera beaucoup sur la vulnérabilité, qui est le volet, qui est une manière de penser la corporéité dans sa dimension de fatigue, de souffrance, de douleur, de négatif. Mais là, et c'est une phénoménologie de la non-constitution, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à des phénomènes qui m'arrivent, mais qui échappent à ma maîtrise. Quand je mange, c'est pas, il y a un revirement du constitué en condition de mon existence. J'incorpore des aliments qui vont me donner une énergie. Donc, c'est pas moi qui veux les choses. Je suis pas dans la puissance et la maîtrise. C'est ça qu'il veut dire. Mais là où, moi, je pense que vous avez raison, c'est que il y a, au-delà de cette prédation aussi, qu'il y a dans le monde animal, dans le monde de manière générale, il est important, et ça ne va pas de soi, de souligner ce vivre avec et tout ce que le fait d'avoir à manger, le fait que d'autres êtres humains et autres humains aient à manger, eh bien tout cela, tout ce que ça impose. Faire de la faim, F-A-I-M, le point de départ de l'éthique et de la justice, ça a des conséquences majeures. C'est pas seulement la liberté, mais la faim, cette parole avant la parole dont parlait Appelfeld dans ce livre, quand il dit, quand il était petit, qu'il a vécu comme ça, à errer, eh bien, la faim, c'est justement ce qui interdit ce revirement du besoin en plaisir, parce que c'est une morsure horrible.
La faim n'est pas intersubjective.
Et la faim n'est pas intersubjective, mais elle nous accuse.
Eh ben, vous mangez pas ?
J'ai fini !
Fini ? Vous avez même pas commencé ?
Un peu de raisin pour rafraîchir, éventuellement.
Raisin ? Mais on n'en est pas aux fruits.
On n'a pas fini le deuxième plat de viande ?
Et les volailles qui arrivent ?
Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. Mais j'ai personnellement des principes d'hygiène qui m'engagent à plus de sobriété, sire.
C'est vrai ce qu'on dit ? Vous bouffez que des graines ?
Bouffe pas de graines. Quelques fruits secs, des fèves, des lentilles, et surtout, beaucoup d'eau. Et jamais d'alcool, bien entendu.
Vous vous emmerdez pas pendant les repas ?
Non. À moins qu'il ne dure plus de 3 heures, comme aujourd'hui.
Ça fait pas 3 heures.
Quand on aura fini le fromage, les compotes et les fruits confits, ça fera sûrement 3 heures.
Ah.
Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour ?
Pas moi, chacun son truc.
Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie.
Vous venez d'entendre un extrait de la série Kaamelott, je sais même pas comment on prend, Kaamelott, enfin bref, d'Alexandre Astier, qui met en scène les histoires du roi Arthur. C'est dans la saison 2, dans cet extrait, on entend l'étonnement des chevaliers du roi Arthur devant les repas très frugaux du maître d'armes, et c'est le gras, le plaisir du gras qui nous donne la dernière phrase. Je suis toujours intéressée, un peu étonnée, Diana Cardenas, quand j'entends qu'au fond, c'est souvent cette saveur-là ou cette texture-là, le gras, qui est invoqué comme le cœur du plaisir gustatif. Est-ce que vous, médecin, avez quelque chose à dire de cela ?
Oui, c'est vrai que les gras, c'est les lipides, en fait. Lorsqu'un aliment est riche en contenu lipide, c'est ce qui va donner une meilleure palatabilité, c'est un mot difficile à dire, des aliments.
Oui.
Donc il y a un meilleur goût, si ça va rehausser le goût des aliments, lorsqu'il y a des lipides. Et en même temps...
Pour nos papilles gustatives, c'est très important.
Bah oui, ça va donner du goût aux aliments, mais en même temps, ça va donner beaucoup plus d'énergie. Bon, par gramme, par équivalent de gramme avec un carbohydrate ou une protéine, il y a un double d'énergie dans les lipides.
4 calories,
4 calories gramme. Par protéine, par glucides et par lipides, c'est presque 9.
Oui.
Donc c'est riche en saveur, mais c'est aussi riche en énergie. Je pense que c'est pour ça, je pense que c'est sublimé un peu aussi.
Du coup, vous voyez, comme on nous incite à moins manger et à faire attention au gras, au cholestérol. Après, je parlerai du sucre, où il y a quelque chose d'analogue qui se développe depuis un certain temps, en termes d'alerte. Mais le gras est plutôt quelque chose avec quoi les médecins nous disent de faire attention. Or, c'est vraiment le cœur du plaisir. C'est souvent ça qui sort quand les gens parlent du plaisir gustatif. Donc, ça donne au plaisir gustatif une dimension terriblement transgressive de nos jours.
Bah, tout à fait. Je pense que la société est face à un enjeu majeur. C'est-à-dire, comment concilier, justement, le plaisir, la convivialité, les goûts, avec toutes ces injonctions, avec toutes ces prescriptions médicales. C'est-à-dire, moins gras, moins de sucre, mais en même temps, il y a du plaisir et des goûts. Donc, je trouve que c'est très difficile, mais c'est vrai, il faut essayer de faire l'activité physique, de profiter des aliments, mais faire attention à l'excès. C'est dans la terminologie, c'est l'excès des lipides plutôt.
Et néanmoins, ce que vous montrez bien aussi dans vos travaux, c'est que il faut retrouver quelque chose comme un plaisir que la médecine connaissait, la médecine d'Hippocrate et de Galien. Galien, c'est 2e siècle après Jésus-Christ, trouvait que l'alimentation était le cœur du soin. C'est comme si avec la médecine moderne, et encore plus elle est moderne, c'est-à-dire Lavoisier, la chimie, l'invention de la chimie moderne, le rapport aux molécules à partir de la fin du 18e, c'est comme si les molécules avaient remplacé les aliments dans la manière médicale de penser le fait de nourrir les patients et les humains.
Bah, il y a, c'est
c'est essentiel ce que vous venez de dire. Je pense que la médecine qu'on a aujourd'hui, donc la médecine allopathique occidentale, a un point de départ dans la médecine hippocratique, donc 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette philosophie, cette médecine hippocratique qui est étendue sur un siècle ou plus d'un siècle entre Hippocrate et ses disciples, connaissait déjà beaucoup de thérapeutiques, connaissait les excisions, les saignées, etc. Ce qui est réellement nouveau pour Hippocrate et la pensée hippocratique, c'est la diététique. Diététique au sens large, notamment les régimes. Donc on allait, la maladie n'était plus un problème des dieux ou un châtiment, la maladie avait une explication rationnelle. Il y avait différents courants de pensée, mais de manière générale, la médecine hippocratique plaçait au centre des questionnements, justement, les régimes. Comment adapter les régimes en fonction de la maladie. Et ça a été repris par Galien, puis arrivé jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, presque intact. Pour après, un peu être perdu. Et aujourd'hui, on a hérité de ça, mais très partiellement. Aujourd'hui, la médecine ignore souvent ces problématiques, les problématiques de comment alimenter la personne malade. Et on oublie que la nutrition est au cœur de la médecine. Parce que, moi je vais souligner rapidement deux points très importants de mon point de vue. La première, c'est qu'il faut comprendre que il y a une transformation essentielle dans le concept des nutriments. On connaît, il y a une première notion des nutriments dans l'Antiquité chez Hippocrate. Cette notion des nutriments a évolué. Et aujourd'hui, nous savons un nutriment qui peut être administré de manière artificielle. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, médecins nutritionnistes, on est capable de administrer des nutriments qui sont toujours issus de la nature. C'est toujours un nutriment naturel, mais qui est transformé grâce à l'industrie pharmaceutique pour être administré dans une sonde, dans un cathéter. Donc, on est face à la nutrition artificielle, entérale ou parentérale. Et cette transformation des nutriments, de cette concept de nutrition, est essentielle parce que ça va définir une nouvelle discipline qu'on appelle aujourd'hui la nutrition clinique. Et les deux points essentiels pour moi, c'est la dénutrition, qui est liée justement à toutes les problématiques de la maladie. Et cette nutrition, le patient qui est, la personne qui est dénutrie est vulnérable parce qu'il souffre dans sa corporalité. Et c'est une problématique qui est très peu diagnostiquée.
Alors nous allons parler d'André Gide maintenant, de ce que sont les nourritures terrestres. Je vous propose d'écouter un extrait de ce livre de 1897 lu par Nicolas Berger de notre équipe et ensuite vous entendrez la voix de Gide lui-même qui lit un extrait de ces nourritures terrestres.
Ce que j'ai connu de plus beau sur la terre, ah, Nathanaël, c'est ma fin. Elle a toujours été fidèle à tout ce qui toujours l'attendait. Est-ce de vin que se grise le rossignol, l'aigle de lait, ou non point de genièvre les grives? L'aigle se grise de son vol, le rossignol s'enivre des nuits d'été, la plaine tremble de chaleur. Nathanaël, que toute émotion sache te devenir une ivresse. Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim. Chaque action parfaite s'accompagne de volupté.
Satisfaction, je vous cherche. Vous êtes belle comme les aurores d'été. Sources plus délicates au soir. Délicieuses à midi, eau du petit matin glacé, souffles au bord des flots, golfes encombrés de mâtures, tièdeur des rives cadencées. Oh, s'il est encore des routes vers la plaine, les touffeurs de midi, les breuvages des champs, et pour la nuit le creux des meules. S'il est des routes vers l'Orient, des sillages sur les mers aimées, des jardins à Mossoul, des danses à Tougourt, des champs de pâtre en Helvétie. S'il est des routes vers le Nord, des foires à Nijni, des traîneaux soulevant la neige, des lacs gelés, certes, Nathanaël, ne s'ennuieront pas nos désirs. Les bateaux sont venus dans nos ports apporter des fruits mûrs de plages ignorées, Déchargez l'aide, leur fait un peu vite, que nous puissions enfin y goûter. Nourriture, je m'attends à vous, nourriture. Satisfaction, je vous cherche. Vous êtes belle comme les rires de l'été. Je sais que je n'ai pas un désir qui n'ait déjà sa réponse à prêter. Chacune de mes faim attend sa récompense. Nourriture, je m'attends à vous, nourriture. Par tout l'espace, je vous cherche satisfaction de tous mes désirs.
Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim, Jean-Michel Wittmann. On a entendu cette phrase dans une lecture de Gide. Est-ce à dire que pour Gide, la faim se travaille ?
Oui, la faim, c'est le paradoxe d'ailleurs des nourritures terrestres. Et de ce point de vue-là, cet extrait est sans doute plus représentatif finalement que celui qu'on a entendu dans la bouche de Gide. En réalité, les nourritures terrestres sont une œuvre de dialogue avec soi-même. Et donc, il célèbre également la satisfaction, le désir pris dans les nourritures, dans la nourriture, mais métaphore qui désigne toutes les nourritures. Mais en réalité, ce qui est célébré tout au long du texte, c'est plutôt l'expérience de la faim. L'expérience de la faim nous indique bien ce qui est en jeu dans ce rapport à la nourriture. C'est-à-dire, il faut cultiver sa faim, parce que cultiver sa faim, c'est aiguiser son désir. Et la véritable satisfaction réside dans le désir plutôt que dans la consommation du désir. Pourquoi ? Parce que ce qui est recherché, en réalité, et conformément d'ailleurs à ce que d'autres écrivains de l'époque recherchent, mais le message après tout est toujours actuel, c'est une forme d'exaltation. Le terme qui revient continuellement dans les nourritures terrestres, c'est le terme de ferveur. Ici, les questions d'ivresse, mais finalement l'ivresse, métaphore qui nous renvoie finalement à la nourriture, a la même signification dans le texte que le terme de ferveur, qui est l'un des termes les plus employés dans les nourritures terrestres. Et la ferveur, c'est l'intensité d'être. Finalement, les nourritures nous renvoient à cette recherche d'une plus grande intensité d'être et une manière de se refixer dans l'être dans le monde.
Alors Gide, qui n'a jamais beaucoup aimé manger, ne nous parle jamais du gras, par exemple, dont nous avons parlé. Et d'ailleurs, au passage, je signale que Bria Savarin n'a jamais nommé un fromage, mais c'est un des fromages les plus gras qui existe, qui, dans les années 1930, a fini par être nommé par un crémier parisien, Bria Savarin. On n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt avec Gide dans le fruit. J'ai l'impression que le fruit est vraiment l'exemple paradigmatique de la jouissance lorsqu'on le met à la bouche. Leur pulpe, écrit-il, était délicate et juteuse, et il parle de l'Afrique du Nord et des fruits qu'il a découverts là-bas. Savoureuse comme la chair qui saigne, rouge comme le sang qui sort d'une blessure. Leur goût écœurait tout d'abord, étant d'une fadeur incomparable. Ça, c'est intéressant. J'aimerais que vous commentiez l'importance d'être un peu écœuré pour jouir de la saveur. Elle laissait cette chair, après la prêter dans la bouche, quelque chose comme une amertume. On ne la guérissait qu'en remangeant un fruit nouveau, à peine bientôt, si seulement durait leur jouissance. Et il dit même plus tard que la fadeur dans cet extrait devenait plus nauséabonde. C'est très complexe quand même, la jouissance. C'est plein d'écœurements.
Alors si vous le permettez, juste en une phrase, je voudrais revenir sur la question du gras. Pourquoi le gras n'est-il pas présent ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les nourritures terrestres expriment plutôt une recherche qui est comparable à une forme d'ascétisme, même si ceux qui l'ont lu hâtivement ou qui n'en ont qu'une vague idée associent plutôt le gîte des nourritures terrestres à l'hédonisme, mais en réalité c'est une forme d'ascétisme. C'est la raison pour laquelle c'est toujours la faim qui est centrale. Et s'il est question de nourriture au sens strict, ce sera plutôt effectivement une nourriture frugale que des plats gras comme celui qu'évoquait Méité au début de cette émission, dans ses émissions culinaires avec le gras.
Et sexuellement, frugalité ?
Et c'est là qu'on arrive à la « pourquoi les fruits ?». Les seules nourritures au sens concret du terme qui sont évoquées, mais qui se cherchent toujours d'une valeur métaphorique dans le texte, ce sont effectivement les fruits. Il y a une série de textes, il y a notamment dans les nourritures terrestres, qui est un texte un petit peu hybride, qui entrelace des passages plutôt narratifs, presque romanesques, mais aussi beaucoup de célébrations lyriques, voire des poèmes qu'il appelle des rondes. Une place assez grande est faite aux fruits, et de très loin, si les questions de nourriture, c'est la question des fruits. Et si les questions des fruits, évidemment, c'est d'une part parce que ça nous renvoie aussi à cette forme d'ascétisme. Le fruit, c'est quand même ce qu'on peut immédiatement cueillir, éventuellement dans la nature, et qui ne nécessite pas de préparation précisément. Mais c'est aussi parce que, et on le voit très bien dans cet extrait, c'est aussi un des terrains sur lesquels vous vouliez m'amener tout à l'heure, mais j'y arrive, évidemment parce que la question de la nourriture chez Gide, la question de la découverte des nourritures, a partie liée avec la découverte qui a été la sienne de la sexualité. L'expérience fondatrice qui est à l'origine des nourritures, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi un écrivain écrit un livre, il y a de multiples facteurs, mais j'ai évoqué tout à l'heure, en écho aussi à ce que nous disait Diana Cárdenas, le fait que Gide s'est découvert malade en 1893-94, il découvre son corps, et donc c'est cette expérience de la redécouverte du corps, mais aussi fondamentalement ce qu'il découvre dans son séjour, alors qu'il a 22 ans, il découvre la sexualité avec une expérience hétérosexuelle, qui sera une des rares de son existence, mais surtout, il découvre l'homosexualité, la nature de ses désirs.
Donc, il part en Afrique du Nord, c'est là. Donc, bon, disons les choses clairement. Il a eu de nombreuses expériences homosexuelles dans ces années 1890, y compris avec des très jeunes hommes, des adolescents. Répondez juste pour qu'on va pas tourner autour du pot.
Oui, bien sûr, oui.
Des choses qui aujourd'hui...
d'ailleurs que Gide lui-même, sans être un adolescent, est vraiment un jeune homme à ce moment-là.
Très bien. Donc, bon, voilà, avec les problèmes que ça pose aujourd'hui pour nous, ces mineurs, voire ces enfants prépubères ou pubères, bon, voilà, c'est un problème. Ce qui, d'un point de vue littéraire, en tout cas, nous intéresse, c'est que, avant d'écrire cela, Gide a écrit les cahiers d'André Walter. Il s'est inventé un personnage alter ego qui parle dans les cahiers de Walter Alter qui ont été publiés chez Perrin en 1891. Il paraît qu'après, il a voulu tout mettre au pilon, mais Barrès a eu le temps de lire, il l'a donné à Mallarmé. Bon. Donc quand même, ce texte semblait avoir beaucoup de valeur. Et dans ce texte-là, Walter évoquait encore un autre alter ego, un certain Alain déchiré entre chair et idéal. C'est ce déchirement auquel Gide met fin après son voyage en Afrique du Nord et dans les nourritures terrestres. Est-ce ce déchirement qu'il conteste, qu'il répare ?
Ouais, disons surtout qu'il le met en scène d'une autre manière, puisqu'en réalité, on retrouve toujours ce même dialogue entre la volonté d'avoir un corps, le fait de se resituer sur la terre, et donc cette fois la chair n'est plus perçue de manière négative comme elle avait pu l'être évidemment à l'époque des cahiers d'André Walter qui baigne dans l'idéalisme fin de siècle. C'est l'époque où il découvre avec enthousiasme Schopenhauer, ce qui situe son horizon philosophique, et donc il est tout à fait coupé des réalités matérielles et des nourritures terrestres. Donc effectivement il y a un dépassement, mais on pourrait tout aussi bien dire que là où il y avait réprobation de la chair et puis approbation des choses de l'esprit, il y a simplement une volonté d'équilibre et de dialogue pour parvenir à une plénitude d'être qui doit aussi rejaillir sur l'écriture.
Et il se compare à un convalescent dans l'édition de 1927 où il fait une préface, donc à la réédition des nourritures terrestres. C'est le livre, dit-il, sinon d'un malade, au moins d'un convalescent, d'un guéri, de quelqu'un qui a été malade. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Baudelaire, l'artiste qui est dans L'attitude moderne en 1864, qui est comparé lui-même à un enfant, à un convalescent gourmand de tout.
Oui, absolument. Cette convalescence, c'est lié à cette double expérience, finalement, ce sentiment de n'avoir pas vécu assez intensément, ce qui est un peu paradoxal dans des années où l'influence subie par Gide, comme par beaucoup d'écrivains de sa génération, c'est celle du culte du moi de Barrès, donc de la recherche d'une certaine intensité d'être, mais qui se faisait aussi de manière, finalement... l'intensité d'être, on la recherche à l'intérieur d'une chambre, ce qui sera encore le cas chez Proust, évidemment, et ce qui est le cas chez Mallarmé à ce moment-là.
C'est très ambigu, ce que vous venez de dire est passionnément ambigu, délicieusement ambigu, car dans les chambres, on ne fait pas que manger, on peut faire l'amour aussi.
C'est vrai, et bon, pour revenir aux fruits, évidemment, vous aurez bien compris, et chaque lecteur le remarque, finalement, les seuls moments où il y a véritablement, parce que c'est un texte qui est un petit peu curieux, et ça peut sembler curieux de la part d'un spécialiste de Gide de dire ça, mais au fond, je ne trouve pas que Jean-André Gide, mais la plupart des lecteurs en conviennent, André Gide n'est pas lyrique, n'est pas fondamentalement lyrique.
Il est même très cru.
Un auteur qui est fondamentalement ironique. Et on retrouve d'ailleurs cette dimension ironique dans les nourritures terrestres avec le déploiement de modèles opposés, de valeurs opposées, cette recherche d'une quête d'équilibre, cette volonté de ne jamais conclure, de dire une chose et son contraire. Le lyrisme n'est pas véritablement son mode d'expression.
Il dit des choses très crues. La nature me pénétrait mieux.
Et là, effectivement, quand c'est lorsqu'il est question des fruits qu'on touche à quelque chose de plus authentiquement lyrique, mais qui est un petit peu une exception dans l'œuvre de Gide, et je dirais même presque à l'intérieur des nourritures, mais parce que à travers ces pages sur les fruits, bon, il y a eu des années, dans les années 1970, les chercheurs en littérature, pour beaucoup, étaient beaucoup influencés par la psychanalyse et cherchaient beaucoup de symbolisme sexuel, parfois de manière un peu forcée dans certains textes, mais ici, en l'occurrence, c'était évidemment une manière d'exprimer quelque chose qui ne pouvait pas être dit pour des raisons qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Vous avez rappelé très justement que ce qui pose problème aujourd'hui dans la sexualité de Gide, c'est le fait qu'elle est détournée vers des adolescents, voire des gens encore plus jeunes. Mais au fond, ce qui, à l'époque, pose problème, et ce qui est indicible, n'est pas la question de l'âge des partenaires, c'est purement et simplement la question de l'homosexualité, de l'orientation sexuelle. Donc il ne peut pas en parler, et il brûle d'en parler. Il a quelque chose à dire, et ce quelque chose à dire a quand même quelque chose à voir avec la redécouverte de son corps, grâce à la maladie ou au-delà de la maladie, mais aussi et surtout avec la découverte de la sexualité, mais d'une sexualité honteuse et qui ne va pouvoir se vivre que dans la clandestinité. Et donc, elle ne trouve une forme d'expression, finalement, lyrique, que dans l'évocation de ses fruits et notamment tout ce qui va s'exprimer autour de la grenade.
Mais même, je ne suis même pas sûre que ce soit du lyrisme, mais on va laisser ce sujet. Quelque chose de tellement cru, ce jeu à se priver longtemps jusqu'à la demi-défaillance, dit-il, avant de jouir.
Alors, effectivement, c'est là
de la nourriture.
Que je disais que Gide n'est pas un écrivain lyrique, mais plutôt un écrivain. N'oublions pas qu'il écrit justement en 1925 dans son journal des faux monnayeurs qu'il écrit pour être relu. Au fond, c'est un écrivain qu'on a du mal à comprendre à la première lecture, qu'il faut prendre le temps de lire, de relire. Ce qui veut dire que ces textes sont un petit peu des textes cryptés, qu'on doit déchiffrer. Et vous êtes en train de le faire, effectivement, ici. Vous déchiffrez tout le symbolisme sexuel qu'il y a dans ces quelques lignes.
Midi, c'est l'heure de manger du saucisson et du pâté. C'est l'heure de manger, ce n'est pas l'heure de travailler. À 11h, un incendie a éclaté. Au secours, il faut appeler les pompiers. À 11h30, toute la superficie ressemblait à une grande bougie. À 11h, le chirurgien est arrivé. Son malade était prêt à opérer. Un petit coup de ciseau, un petit coup de couteau, et bientôt ils sont des grenouilles dans le ventre. Le docteur, les pompiers ont tout laissé tomber quand les cloches de midi ont sonné. Midi, c'est l'heure de manger du saucisson et du pâté. Midi, c'est l'heure de manger un plat garni du Beaujolais. Midi, c'est l'heure de manger, ce n'est pas l'heure de travailler. Midi, c'est l'heure de manger, ce n'est pas l'heure de travailler.
C'est Aileen. Midi, c'est l'heure de manger sur un album de 1971 de Universal Music qui reprenait et célébrait plusieurs chansons promues par Salut les copains, la fameuse émission de Franck Thénau et Daniel Philippaki sur Europe 1, lancée en 1959. Et puis il y a eu ensuite le fameux magazine Salut les copains. Merci beaucoup Corinne Peluchon, Jean-Michel Wittmann et Diana Cardenas. Les références de vos travaux sont sur notre site. Corinne Peluchon, je signale que vous venez il y a quelques jours de faire paraître chez Rivage La démocratie sans empire ou La puissance du féminin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au titre et à la gloire. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les titres font-ils de l'effet ? Quand je parle de la duchesse de Langeais ou de la princesse de Clèves, ces noms font en quelque sorte un effet sur moi à plusieurs titres. C'est le cas de le dire, car ce sont à la fois des titres de noblesse. La duchesse de Langeais, la princesse de Clèves ont existé, sont inscrites dans un ordre social d'un côté, et d'autre part, ce sont des titres de romans. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette au XVIIe siècle et la duchesse de Langeais de Balzac au XIXe siècle. Et il peut sembler qu'il y ait homonymie entre ces deux usages de la notion de titre, entre le titre nobiliaire, le titre qui marque avant tout une distinction sociale, une distinction presque indépendante de la personne et qui marque un ordre social avec la question de savoir sur quoi il est fondé, pourquoi une telle est telle duchesse et l'autre princesse et les autres n'ont aucun titre à rien peut-être, d'ailleurs aucun droit, puisque les titres ce sont aussi des titres de droit d'un côté, mais d'un autre côté, y a-t-il un lien avec cet autre usage de la même notion, la notion de titre, qui fait que la duchesse de Langeais nous fait rêver à un roman de Balzac quand on l'a lu ou même quand on ne l'a pas lu, parce qu'on sait plus ou moins, dès qu'on est entré dans la bibliothèque littéraire du 19e siècle français, on sait plus ou moins qu'il y a un roman qui s'appelle La duchesse de Langeais. Et on sait que le titre, La princesse de Clèves, a fait l'objet aussi d'une controverse politique il n'y a pas si longtemps en France sur la littérature et son enseignement. Il y a donc une sorte d'énigme du titre dans sa polysémie, en quelque sorte, dans la pluralité de ses usages, entre un usage purement social et un usage, disons, purement littéraire, et il semble n'y avoir aucun lien entre les deux. Pourtant, c'est peut-être un lien qu'il faut chercher à comprendre et avec un enjeu plus important qu'on ne croit. Le titre est-il seulement une fonction sociale, une fonction de distinction? Et alors, comment s'applique-t-il au livre? Eh bien oui, il faut quand même que les livres se distinguent dans la bibliothèque, et à ce moment-là, on pourrait croire que la littérature est elle-même, comme le pensent certains sociologues d'ailleurs, construite dans un esprit de distinction, que s'inscrire dans un genre, le roman, que s'inscrire dans une bibliothèque, c'est avant tout une fonction sociale. Et des auteurs ont montré d'ailleurs qu'on peut parler des livres sans les avoir lus, comme le dit un titre célèbre de Pierre Bayard, comment parler des livres qu'on n'a pas lus, et c'est souvent ne parler que de leurs titres, les situer en quelque sorte dans une bibliothèque avant tout pour faire étalage de son prestige. Il y a donc une version purement sociale, purement sociologique, en quelque sorte, du titre comme outil de distinction, comme aurait dit Pierre Bourdieu, fondée sur divers fondements, même dans la littérature. Mais d'un autre côté, le titre, c'est aussi toujours une ouverture sur quelque chose d'autre, peut-être une ouverture imaginaire. Marcel Proust rêvait sur les titres nobiliaires, la princesse et la duchesse de Guermantes, ouvre tout le côté de Guermantes, de la recherche du temps perdu, un peu différemment du côté de chez Swann. Swann, c'est un nom et pas un titre. Alors comment faut-il comprendre cette question du titre? Le titre, c'est à la fois un outil de pouvoir et de distinction sociale et politique qui pose un problème très précis, et évidemment aussi une ouverture sur un contenu individuel, sur une personne, dans le cas de la duchesse de Langeais au singulier, et sur un contenu, le contenu d'une œuvre qui peut-être ne peut pas se passer entièrement de titre, car elle a toujours une place dans une société comme une peinture dans un musée ou une partition dans un concert. Et une chanson même a toujours un titre. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Eh bien, peut-être cet aspect impalpable de l'imagination, de l'imaginaire. Oui, le titre nous fait rêver. Mais alors le côté politique, me direz-vous? Eh bien justement, Blaise Pascal, dans Les Pensées, l'avait bien compris. Le titre, la fonction sociale, c'est aussi de l'imaginaire. L'imagination règne sur nous. L'imagination est un pouvoir politique. Si je dis « Votre Majesté » ou « Monsieur le Juge », cela d'un côté peut me faire rêver ou trembler. Dans les deux cas, c'est les deux facettes de l'imagination humaine au pouvoir.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Axel Dubois, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.